solo esta vez. Oh, 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 oh,
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Foucault Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Arrêtez la propagation de la COVID-19. Évitez de sortir, sauf pour la nourriture, les médicaments et les rendez-vous médicaux. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau coronavirus.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire, Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute, a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette with butter or marmelade?
J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme malgré cette situation exceptionnelle qu'on est tous et toutes en train de vivre actuellement. Beaucoup d'entre nous sont confinés, plusieurs personnes sont seules. Eh bien, je veux que vous sachiez que Télé 5 Monde est avec vous. On pense à vous, je pense à vous. Et parce qu'une information fiable est essentielle en temps de crise, eh bien, nous, on continue à vous informer le mieux possible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, on reste bien tranquillement chez nous, à la maison. On va se retrouver très vite. Allez, je vous embrasse.
Confinés, bienvenue à Popourri Show, dimanche 3 mai 2020, troisième édition de notre émission spéciale en mode virtuel, animée par Eric Adair, en partenariat avec RFI, RTL, TV5 Monde, France Inter et France 24. Nos nouveaux partenaires, le Bureau de la conseillère consulaire pour l'Ontario et le Manitoba, qui nous propose un nouveau site COVID-19, plein de ressources et d'actions solidaires à surveiller sur notre site web. Le confinement a touché les petites entreprises avec plus de force encore que les grandes chaînes. Pour préserver un peu de cette France qui vit à Toronto, Peggy Harvey s'est donnée pour une mission créer une liste pour recenser les commerces francophones et francophiles de la région de Toronto qui opèrent dans les métiers de la nourriture, du vin et du design. Peggy Harvey, fondatrice d'Apéro Chic, organisme de réseautage dans la région de Toronto, sera des nôtres. Et enfin, un grand merci à tous les techniciens ici et à l'étranger, en particulier Ron Devera dans un studio de fortune. Et oui, bonjour chers amis, chers auditrices, chers auditeurs, comment se passe le télétravail? Vous en prenez goût? Je sais, ce n'est pas facile pour certains et d'ailleurs, nous avons appris avec tristesse la fermeture de plusieurs petites entreprises dans la région de Toronto, dans le quartier de Leslieville. C'est à notre façon de rendre hommage à tous ces entrepreneurs, ces victimes qui sont les victimes collatéraux de cette pandémie. Donc, cette émission est réalisée pour eux, mais aussi pour ceux et celles qui sont au front, qui travaillent dans les services essentiels, et nous devons avoir une pensée spéciale à tous ces gens. Nous pensons aussi à ces hommes, ces femmes, ces personnes âgées, ces gens qui font partie des groupes les plus vulnérables et qui sont touchés au front par cette crise. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau. On est en train de préparer une petite émission à ce sujet avec nos amis de nos médias partenaires. La pandémie est neutralisée dans certains pays dans le monde, c'est ce qu'on a découvert cette semaine grâce à nos médias partenaires, mais la bataille n'est toujours pas gagnée. Le mot de la semaine, déconfinement. Les inquiétudes sont réelles, surtout pour les travailleurs dans certains secteurs et les passagers qui doivent se déplacer en avion. Chez nous, le Québec rouvrira graduellement ses régions à compter du 4 mai prochain. Le gouvernement ontarien n'est pas friand de cette idée. Recevoir des Québécois en Ontario, pas question, a dit le premier ministre Doug Ford cette semaine. Près du tiers des entreprises canadiennes accusent des pertes de plus de 40% de leurs revenus au dernier trimestre, alors qu'à Ottawa, le gouvernement Trudeau tente de faire adopter son plan d'aide aux étudiants, un plan d'aide qui ne reçoit pas nécessairement l'aval des partis de l'opposition. Je vous invite à suivre l'évolution en continu de la pandémie de la COVID-19 au Canada et dans le monde grâce au tableau de bord du site de Radio-Canada. Très bien fait. Allez sur le site ici.radio-canada.ca/info/2020/coronavirus-COVID-19. Parmi les sujets thématiques reçus cette semaine, une bien triste nouvelle, victime collatérale de la pandémie, l'atelier Luc Sculpture ferme ses portes définitivement. C'est une grande perte, à mon avis, pour les francophones, les francophiles de la région de Toronto. Inacceptable! C'est le coup de gueule de Marc-Albert Cormier, conseiller consulaire pour l'Ontario et le Manitoba. Il dit, je cite, « J'ai appris ce matin que l'enveloppe prévue pour la subvention des associations locales a été annulée pour l'année 2020. L'administration centrale a décidé de manière unilatérale que les montants prévus pour le programme soutien au tissu associatif des Français à l'étranger seraient orientés uniquement vers les associations d'entraide et de bienfaisance, sans consultation aucune avec les principaux intervenants, c'est-à-dire les conseillers consulaires, l'Assemblée des Français de l'étranger. Je déplore, dit-il, la manière dont cette décision fut exécutée par l'administration et je souligne le caractère discriminatoire de cette orientation qui ne bénéficiera que les circonscriptions où il existe déjà des associations d'entraide et de bienfaisance à l'insu de ceux qui n'en ont pas. Je vous invite à lire les réactions de nos sénateurs dans cet article du site sur lesfrançais.presse.com. Fin de citation. Nous tenterons de recevoir Marc-Albert Cormier à notre émission. Il est, je vous rappelle, collaborateur de notre émission. La saison estivale est souvent synonyme de période de stage pour bon nombre d'étudiants de programmes coopératifs. En raison de la pandémie, des centaines d'étudiants canadiens n'arrivent pas à trouver de stage. Et puis, une petite annonce, le séminaire de recherche de la chaire en francophonie internationale sur les technologies numériques aura bien lieu le 15 mai prochain à 13h, heure d'Ottawa, Canada, via Zoom. Et oui, les organisateurs accueilleront Stéphane Vial, professeur à l'école de design de l'Université du Québec à Montréal, où il est titulaire de la chaire Diamant, chaire de recherche de l'UQAM en design pour la cybersanté mentale. Même si nous n'avons toujours pas le vaccin miracle pour combattre la COVID-19, j'espère de tout cœur que cette émission vous remonte un peu le moral. Nous avons des invités, des Français, des Françaises engagés, des chroniqueurs et des humoristes qui vont vous informer, vous divertir. Garantie. Je remercie chaleureusement tous nos invités, Lucie Bouteloup, journaliste du service de Radio France Internationale, qui répondra aux questions des auditeurs, Francine Watkins, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire pour l'Ontario, le Manitoba, qui lance un nouveau site d'information COVID-19, Peggy Harvey, cofondatrice d'Apéro Chic, à ne pas rater, Linda Giguère, journaliste de la rédaction de TV5 Monde. En cette période de confinement, Linda prodigue ses conseils tout en jonglant avec la langue française, les mots de la langue française. Florence Foresti, humoriste et actrice française, nous donne sa version sur les épidémies, les goguettes en trio mais à quatre et leur parodie sur le coronavirus, un groupe français qui connaît un succès foudroyant sur la toile en ce moment. Tous confinés, mais pas forcément isolés, je vous invite à être des nôtres. Retrouvez notre sélection d'infos pratiques, témoignages, conseils et astuces sur notre site popourichaud.com. Parmi les sujets traités, les médias Et à notre émission aujourd'hui, déconfinement, nous constatons l'inquiétude des parents face au retour à l'école. Plusieurs messages hein, d'ailleurs à ce sujet. Vous avez sans doute entendu parler de cette nouvelle application révolutionnaire, une application pour smartphone, pour savoir si l'on a côtoyé une personne testée positive au Covid-19. C'est le projet baptisé Stop Covid, une application qui fait débat. Reportage de nos collègues de France 24. Alors que l'épidémie de coronavirus continue de se propager dans le monde, des essais cliniques se multiplient pour développer des tests sérologiques, mais aussi pour tenter de trouver des traitements efficaces contre cette pandémie. Est-il prudent de faire ces courses en toute sécurité et sans attraper le coronavirus ? La chronique de Lucie Bouteloup de Radio France Internationale à Paris. Je vous laisse avec Lucie et je vous retrouve juste après.
Non mais d'abord c'est l'heure de notre rendez-vous dédié au Covid-19, la pandémie qui oblige au moins 6 personnes sur 10 autour du monde à rester chez elles. Alors en cette période de confinement se pose la question des courses, comment les faire tout en se protégeant et protéger en même temps ceux qui vivent avec nous. Lucie Bouteloup, bonjour. Alors vous nous rappelez les règles à respecter pour faire ces emplettes en toute sécurité.
Bonjour à tous. Alors la première chose c'est de préparer le plus possible sa liste de courses pour ne pas perdre de temps inutilement dans les rayons des magasins. Il faut également, tant que possible, éviter les heures d'affluence. Et puis, afin d'éviter la surpopulation dans les commerces, faites vos courses seules. Il sera alors plus facile de respecter la distanciation sociale avec les autres clients. Et puis, vous éviterez aussi de multiplier les risques de contamination de plusieurs personnes au sein de votre foyer. Enfin, un dernier geste avant le départ, on ne le répète jamais assez, lavez-vous bien les mains.
Donc tout ça, c'est l'avant. Mais comment se protéger quand on est dans le magasin, Lucie ?
Eh bien, les scientifiques s'accordent désormais tous à le dire, la première chose à faire en faisant ses courses, c'est de porter un masque. En effet, si tous ne garantissent pas la même protection contre le virus, ils sont néanmoins indispensables. Et même si vous optez pour le simple masque en tissu, qui laisse pourtant passer le Covid-19 au travers de ses mailles, eh bien, il aura le mérite de minimiser la propagation de vos postillons et aussi de vous dissuader de vous toucher le visage avec vos mains qui peuvent potentiellement être contaminées. Autre recommandation importante, si vous le pouvez, désinfectez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique en entrant dans le magasin. Cette étape vous permettra de ne pas contaminer les articles ou les objets que vous pourriez manipuler. Et puis, il faut aussi respecter la distance sociale d'un mètre avec les gens qui vous entourent, une mesure pas toujours simple à appliquer, surtout dans les rayons parfois étroits des magasins. Dans ce cas, faites preuve de civisme et aussi de bon sens. Ne vous précipitez pas sur un étal. Si vous voyez que quelqu'un est déjà en train de se servir, attendez patiemment votre tour à la bonne distance. Enfin, évitez de trop manipuler les produits et de les reposer dans les rayons.
Oui, mais il faut quand même que je les porte, mes produits, que je les emmène jusqu'à la caisse. Alors, est-ce que je risque quelque chose à toucher les chariots ou les produits, tout simplement ?
Eh bien, le SARS-CoV-2 peut survivre sur une surface inerte, comme par exemple sur un chariot ou un paquet de lessive. Mais on le rappelle, ce ne sont pas les mains qui sont les portes d'entrée du virus dans l'organisme, mais bien le nez, la bouche et les yeux. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas porter ses mains à son visage pendant les courses.
Mais vous parliez des masques tout à l'heure, Lucie, et les gants, il faut en porter ?
Eh bien non, porter des gants est une fausse bonne idée. En fait, ils constituent une deuxième peau sur laquelle le virus peut également se déposer. Seuls des gants à usage unique peuvent être intéressants, à condition bien sûr de savoir les enlever sans se contaminer ni contaminer les autres surfaces. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire.
Et alors après mes courses, quand je rentre chez moi, quelles règles est-ce que je dois respecter, Lucie ?
En rentrant chez soi, la première chose à faire, vous l'avez deviné, c'est à nouveau de bien vous laver les mains. Ensuite, vous devez bien nettoyer les fruits et les légumes à l'eau claire et les laisser sécher ou bien utiliser un papier absorbant ou un torchon dédié uniquement à cette utilisation et régulièrement laver. Surtout, n'utilisez pas d'eau de Javel ou un autre détergent, vous risqueriez de vous empoisonner. Pour les autres produits, eh bien, les avis des spécialistes divergent. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, elle préconise par exemple de passer un essuie-tout humide quand cela est possible sur les emballages et puis de laisser de côté les produits pendant 3 heures avant de les ranger. Mais pour Alexandre Bleptreux, infectiologue à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, prendre trop de précautions peut être contre-productif.
Il y a des données scientifiques qui disent que le virus persiste quelques heures sur des surfaces inertes. Donc c'est une réalité, mais c'est dans des conditions de test particulières en laboratoire. Donc certes, la transmission de la main à la main peut exister, mais la transmission par les objets, elle, est quand même très limitée et très peu documentée. Donc il ne faut pas s'inquiéter de façon démesurée, il ne faut pas devenir paranoïaque. Il y a des mesures qui sont utiles et d'autres qui sont superflues. Et bien penser que toute mesure qu'on rajoute nécessite de notre part une attention importante qui peut nous faire oublier les mesures essentielles et de base. Donc restons simples et pragmatiques. Distanciation sociale, port de masque ou de tissu sur le nez et la bouche quand on est à l'extérieur, et une hygiène des mains bien réalisée sont des mesures largement suffisantes.
Des gestes simples donc, mais pour les personnes les plus fragiles, la livraison à domicile peut aussi être une bonne option, à condition, encore une fois, de bien se laver les mains après avoir rangé ses courses.
Lavez-vous les mains et restez chez vous autant que possible. Merci Lucie Bouteloup, c'était le rendez-vous Covid-19 sur RFI.
Donc, si j'ai bien compris, tant qu'on n'a pas contracté le coronavirus, on n'est pas immunisé. Tant qu'on n'est pas immunisé, il faut rester confiné pour éviter de l'attraper. C'est compliqué l'immunité. Alors imaginez une armée de petits soldats, c'est notre système immunitaire. Quand un virus ou une bactérie pénètre dans notre corps, notre armée se mobilise, nos globules blancs vont combattre l'ennemi et le neutraliser. Ils vont en sortir plus forts grâce aux anticorps. C'est une sorte de butin de guerre qui est censé nous protéger d'une éventuelle nouvelle attaque. L'immunité, c'est notre capacité à nous défendre. À l'origine, c'était un privilège aussi. L'immunité fiscale était une exemption de charges ou d'impôts. Puis l'idée du privilège s'est étendue au domaine du droit. L'immunité parlementaire, l'immunité diplomatique protège de toute action judiciaire. À terme, quand les deux tiers d'entre nous seront immunisés, l'immunité collective signera peut-être enfin notre victoire contre la Covid-19. Mais pour combien de temps? On ne le sait pas. Alors on aura peut-être remporté une bataille, mais pas encore la guerre.
CIUT 89.5 Toronto.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prise de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
فيروس كورونا الجديد كان حاضرا بقوة في خطاب.
This virus still has the potential to erupt into a global pandemic.
De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la première manifestation de la maladie en Afrique subsaharienne. L'épidémie de coronavirus se répand. Près de 50 pays désormais sont touchés. Aucun continent n'est épargné. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. si l'on s'en tient strictement à cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 ressemble de plus en plus à une pandémie. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition. Une chose est sûre, la crise sanitaire désormais est mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Quelle réponse lui apporter? Les premières mesures annoncées localement ou à plus grande échelle sont-elles à la hauteur? On va tenter de répondre à toutes ces questions jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus.
Édition spéciale.
Pour ou contre l'application Stop Covid, l'opinion publique semble très partagée sur le dernier projet du gouvernement. Alors qu'il n'est encore qu'au stade embryonnaire, ce projet de traçage numérique fait déjà énormément parler de lui. Il est censé aider à endiguer l'épidémie en traçant les cas contacts de coronavirus. Ce dimanche, un premier sondage IFOP a donné les premières interprétations des Français. 46% de la population interrogée est pour, 45% contre. Si près d'une moitié de Français se disent disponibles pour installer cette application sur leur téléphone, ils sont en revanche 53% à être hostiles à l'idée de rendre cette application obligatoire. Et pour cause, ce dispositif fait directement entrave à la vie privée selon ses détracteurs. Même le secrétaire d'État chargé du numérique reste perplexe face à ce projet.
Il y a des incertitudes très fortes sur le fait que ça soit efficace, et donc il n'est pas impossible que tout cela se dégonfle assez vite dans les semaines qui viennent. Mais même s'il y a beaucoup de questions et beaucoup de difficultés, ce serait irresponsable de ne pas y travailler.
S'il arrive jusqu'à son terme, Stop Covid pourrait voir le jour à la sortie du confinement. Pour l'heure, les chercheurs de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, travaillent toujours à son développement. Et les géants Apple et Google bûchent sur un principe similaire. Actuellement, le projet français se rapprocherait de celui de Singapour, où le système Bluetooth est privilégié face à la géolocalisation. Dans le monde, de nombreux gouvernements ont déjà mis en place ce système de traçage, à l'instar de la Chine. À Wuhan, ce système est utilisé pour entrer et sortir dans les lieux publics. Israël, Taïwan et la Corée du Sud utilisent également cette technologie, et même les pays très attachés à la protection des données personnelles, comme l'Allemagne, sont aujourd'hui prêts à utiliser le numérique pour lutter contre le coronavirus. En tout cas, pour mettre en place un tel outil, le gouvernement ne pourra pas se passer de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. En France, elle encadre la protection des données personnelles. Si la mesure venait à être prise, elle devrait être assortie de garanties sur son caractère d'intérêt public et sur la suppression des données au bout d'une durée relativement courte. L'enjeu d'une telle application est particulièrement important alors que la stratégie de déconfinement commence à être abordée. Un traçage de la population pourrait éviter que la France ne soit victime d'une deuxième vague de l'épidémie.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes. 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Show, CUT 89,5 FM, aujourd'hui mobilise ses équipes pour mieux informer, écouter la communauté française et francophone de l'Ontario et du Manitoba. Chaque dimanche, CUT FM offrira de nouvelles chroniques et podcasts en partenariat avec les équipes de Mme Francine Watkins, conseillère consulaire pour l'Ontario et le Manitoba, Mme Peggy Harvey de l'Apéro Chic de Toronto. Je vous invite à découvrir les nouveaux sites, les ressources pertinentes et les actions solidaires de nos partenaires sur notre site web popourichaud.com. Vous avez une question, un témoignage, un texte ou une idée originale sur la COVID-19? Vous souhaitez évoquer votre expérience de confinement? Vous souhaitez collaborer à nos émissions depuis chez vous? Veuillez nous écrire à popourichaud.com. www.cut.fm. Une pensée particulière à tous les soignants, les soignantes, les personnes qui se offront dans cette période difficile. Je vous invite à suivre les dernières informations concernant la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et obtenez toutes les informations et les ressources en français de nos partenaires en visitant notre site tout au long de la semaine, popourichaud.com. Où en est-on dans les recherches et les traitements contre la COVID-19? La course mondiale au vaccin s'intensifie avec de premiers essais cliniques en Allemagne et au Royaume-Uni. Certains labos promettent même un vaccin vers le mois de septembre 2020. Cette pandémie sans précédent qui frappe le monde entier nous a ouvert les yeux. Cette pandémie rend visibles les inégalités sociales considérables qui demeurent dans de nombreuses sociétés. J'espère que cette crise servira d'élément déclencheur pour des réformes socio-économiques profondes. Notre ami et collaborateur, Maître Peter Bureau, aborde dans ce sens. Il a écrit un excellent article dans le journal Toronto Star de cette semaine et vous pouvez y avoir accès en visitant la programmation de ce dimanche 3 mai sur notre site Popourichaud. COVID-19 et francophonie ne font pas bon ménage. Plusieurs francophones, choqués par l'étiquetage unilingue en anglais sur les produits nettoyants pour les mains, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a justifié la décision de Santé Canada car selon lui, la situation que traverse le pays est exceptionnelle. En Ontario, le gouvernement a émis un plan de déconfinement sans pour autant donner de date précise. Alors que le Québec rouvre ses écoles graduellement dès le 11 mai prochain, l'Ontario préfère attendre car selon Doug Ford, les conditions ne sont pas favorables pour le moment. Cette semaine, nous avons pris connaissance de la fermeture de plusieurs petites entreprises, des entreprises qui font partie de notre patrimoine culturel. L'exemple, l'école Atelier Luc Sculpture, fondée en 2005 par l'ex-enseignant originaire de la Bretagne, Luc Billan, ferme ses portes définitivement fin juin. Les initiatives solidaires se multiplient pour soutenir les entreprises locales. Plusieurs consommateurs, y compris des francophones, se font un devoir d'appuyer les commerces et à proximité durement touchés par les conséquences de la crise COVID-19. Dans cette deuxième tranche, nous aurons un entretien avec Peggy Harvey. Elle est la fondatrice de l'organisme Chic de réseautage francophone qui regroupe des centaines de membres. Confinement oblige, Peggy d'Apérochic nous lance un appel à la solidarité avec une initiative innovatrice pour soutenir les entreprises locales françaises, francophones, dans la grande région de Toronto. Mais d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter un entretien avec Francine Watkins, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire pour les provinces de l'Ontario et du Manitoba. Elle et sa belle équipe dynamique ont lancé un nouveau site d'information sur la COVID-19. En guise de notre partenariat, nous recevrons un membre de l'équipe de Mme Francine Watkins chaque dimanche à notre émission. Place en premier avec Francine Watkins et juste après, Peggy Harvey d'Apérochic. Plus d'infos sur nos invités et leurs initiatives, allez sur notre site popourichaud.com. Oui, bonjour Francine Watkins.
Bonjour Eric.
Face à la crise liée au coronavirus COVID-19, les conseillers, conseillères consulaires sont pleinement mobilisés. Vivre dans un pays étranger en période d'une crise peut des fois causer des soucis et des inquiétudes. Dans un élan de solidarité, Popourichaud est fier de s'associer avec le bureau de la conseillère consulaire de France, qui représente les Français en Ontario et au Manitoba, afin de les informer sur les dernières mises à jour et sur de la COVID-19, mais aussi sur les initiatives, les actions solidaires. Par exemple, un nouveau site sur la COVID-19 a vu le jour et nous avons l'immense plaisir d'accueillir la conseillère consulaire et vice-présidente du conseil consulaire des provinces de l'Ontario et du Manitoba, Madame Francine Watkins. Alors, tout d'abord, il faut rappeler aux auditeurs que vous êtes établie en Ontario depuis très longtemps. Vous êtes une femme très engagée. On vous voit régulièrement dans plusieurs occasions ici à Toronto. Les nouveaux immigrants français sont de plus en plus présents sur notre territoire et selon les dernières statistiques, il y a une nette progression depuis quelques temps des nouveaux arrivés en Ontario et au Manitoba. En ce temps de pandémie, vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, c'est-à-dire de créer un nouveau site sur la COVID-19 pour vos compatriotes. Dois-je comprendre qu'il y avait un écart ou manque de renseignements pertinents pour les Français vivant en Ontario ou au Manitoba?
Écoutez, je crois qu'il y a quand même énormément d'informations qui circulent. Je pense que les Français au Canada, en général, sont bien servis par leur pays d'accueil. Car le Canada déploie vraiment des efforts remarquables pour aider l'ensemble de la population et donc les Français qui sont établis ici. Mais les besoins des Français sont doubles, c'est-à-dire que d'une part, oui, ils sont résidents permanents, quelquefois binationaux, et quelquefois étudiants, PVTistes. Ils ont donc besoin d'avoir ces renseignements qui viennent et à la fois des gouvernements fédéral, provincial et aussi des administrations municipales, que ça soit au Manitoba ou en Ontario. Mais ils ont aussi besoin d'informations françaises, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de faire leur déclaration d'impôt, il y a des gens qui ont des problèmes de succession, il y a des gens qui ont des problèmes aussi de retraite. Et en fait, ce site répond aux besoins que j'ai cernés dernièrement, car j'ai été quand même très sollicitée par mes compatriotes qui avaient en particulier des difficultés à toucher leur pension de retraite française au Canada.
Et d'ailleurs, vous avez un bulletin qui est mis à jour régulièrement avec des informations très pertinentes sur l'assurance, les déplacements, les successions justement. Parlez-nous un petit peu justement comment s'y prendre pour avoir accès à ce nouveau site.
Écoutez, moi je suis un petit peu privilégiée parce que je reçois déjà des bulletins d'information des différents sénateurs qui nous représentent à Paris et donc qui sont au fait des initiatives françaises. Je reçois aussi des bulletins d'information du président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce matin, par exemple, il nous a appris que dorénavant, enfin pour cette année exceptionnelle, non seulement les parents pourront présenter des demandes de bourse exceptionnelles pour le troisième trimestre, je parle des parents d'élèves inscrits dans les établissements français, c'est-à-dire le lycée Claudel et le lycée français de Toronto pour notre circonscription, et qu'en plus, il sera possible de présenter exceptionnellement des bourses pour la nouvelle année scolaire, c'est-à-dire qu'on a, en fait, on peut présenter des bourses, mais c'est simplement le délai de présentation qui a été maintenant aussi prolongé, simplement pour permettre aux gens qui ont été fragilisés depuis le début de l'épidémie de COVID-19 de présenter donc une demande de bourse puisque leur situation financière, économique a changé depuis lors.
Alors, une adresse, peut-être un lien. D'ailleurs, les gens pourront aller toujours sur notre site popourrishow.com. On vous donnera une visibilité tout au long de la semaine et tout au long de l'année, si vous le voulez. Mais quel est votre lien? Ou encore, il y a, je pense, des bénévoles qui sont disponibles s'ils ont des questions, si les Français, les Françaises ont des questions, des commentaires, des suggestions, s'ils souhaitent aider aussi la communauté française ou en se portant volontaire. Alors, quel est le lien, quelle est l'adresse courriel?
Surtout l'adresse courriel, parce qu'en fait, donc ce lien, nous allons mettre à jour ce site, surtout aussi le registre des commerçants et des artisans français qui continuent d'ailleurs à travailler durant l'épidémie, mais simplement il suffit de passer des commandes. Donc si vous m'écrivez à l'adresse francinewatkins@gmail.com, à ce moment-là, je vous répondrai et aussi je vous mettrai en contact avec les membres de mon équipe, puisque ce site est réalisé par une équipe de personnes très engagées et aussi de personnes qui sont spécialisées dans certains domaines, puisque nous avons des représentants du monde de l'éducation, du secteur de la santé, du secteur de l'économie, donc qui sont quand même trois des grands secteurs qui sont impactés par cette pandémie.
Oui. Alors, encore une fois, nous invitons tous les Français, Françaises, et il y a même des gens qui nous écoutent de temps en temps de Manitoba, à rester en contact avec la conseillère consulaire, Francine Pointe. Est-ce qu'il y a des Français, des Françaises qui vivent des situations très difficiles dans la région de Toronto ou encore au Manitoba?
Oui, nous sommes de plus en plus sollicités. Bien entendu, ce sont des cas... bien sûr confidentielle. Nous sommes aussi contactés, ou j'ai été contactée par des parents de résidents français en Ontario qui se font aussi du souci pour leurs enfants. Il est certain aussi que nous n'avons pas encore vu tout l'impact économique, malheureusement, que cette pandémie va causer. Et donc, nous sommes aussi là à l'écoute des Français établis en Ontario et Manitoba pour leur prêter une aide. Et nous espérons aussi que les Français de l'étranger vont pouvoir bénéficier d'un fonds de solidarité de la part du gouvernement français.
Alors, il y avait beaucoup de questions. D'ailleurs, moi-même, je suis parmi ces gens-là. Air France va peut-être survivre parce que le gouvernement français a injecté 7 milliards d'euros, je pense, pour sauver cette grande entreprise. Donc, les Français qui ont des billets achetés à Air France sont peut-être sauvés par cette décision. Mais vous-même... Francine, comment vivez-vous ce moment de confinement? Est-ce que c'est difficile pour vous?
Écoutez, je suis confinée chez moi. J'essaye de sortir quand même un petit peu. Je dois avouer aussi une chose, c'est que j'ai une activité professionnelle qui est très prenante. Donc, j'ai la chance d'avoir une journée qui est assez structurée. Je travaille ça m'aide un petit peu à traverser cette période de façon un petit peu plus facile, mais j'ai ma famille ici et j'entame ma 7e semaine sans voir mes petits-enfants, donc je trouve ça très difficile, même s'il y a FaceTime, même s'il y a WhatsApp et Zoom et Skype, etc. Mais en fait, les contacts humains me manquent, mes amis me manquent, ma famille me manque. Il est certain que c'est une période assez exceptionnelle, assez unique.
Oui. Alors, donc, si jamais il y a des mises à jour, n'hésitez pas, vous ou les membres de votre équipe sont toujours les bienvenus et nous sommes toujours très heureux de collaborer avec vous et aussi de partager peut-être des initiatives solidaires dont nous aurons l'occasion d'interviewer peut-être d'autres membres de votre équipe la semaine prochaine. Alors, Francine Watkins, qui est, encore une fois, je vous rappelle, conseillère consulaire pour les Français, les Françaises, qui vivent dans la province de l'Ontario, mais aussi au Manitoba. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas à frapper à notre porte si jamais vous en avez besoin.
Je n'y manquerai pas et merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Arrêtez la propagation de la COVID-19. Évitez de sortir, sauf pour la nourriture, les médicaments et les rendez-vous médicaux. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau-coronavirus.
Oui, pendant cette période de confinement, l'organisme de réseautage francophone Apéro Chic de la région de Toronto lance une action solidaire. On en parle tout de suite avec sa cofondatrice Peggy Harvey. Bonjour Peggy.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Oui, ça va. Ben, j'espère vous aussi, malgré ce confinement.
Oui,
perte de morale. Oui. Parlez-nous un peu de cette initiative, de cette action solidaire.
Oui, ben, en fait, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est l'activité Apéro Chic qui était basée sur le réseautage et les rencontres entre personnes et humaines. C'est abruptement arrêté. Donc, toute activité a cessé. Et je me dis, parallèlement, on a travaillé quand même par le passé avec plusieurs des commerçants français sur place. Et vraiment, je comprends ce par quoi ils peuvent passer, hein, en pire, parce qu'ils ont des locaux, des employés, etc. Et assez rapidement, en fait, c'est au moment de March Break, je me suis dit, bon, l'activité s'est arrêtée, qu'est-ce que je peux faire encore? Comment on peut mettre... On n'a plus l'activité, mais on a un réseau, et comment le mettre au profit? Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais répertorier tous les business qui parlent un petit peu d'eux également, qu'on sache un peu ce qu'ils font, leur histoire familiale, parce que certains sont beaucoup de business familiaux, hein, de petites activités familiales, et ensuite de savoir ceux qui étaient encore actifs, de répertorier ceux qui étaient encore actifs, et ensuite et livraient ou alors faisaient seulement un ramassage.
Mmh. Est-ce que vous ciblez certaines entreprises?
Faut qu'il y ait une French touch. Mmh. Donc c'est pas obligatoirement des Français, c'est si vous faites de la pâtisserie française. Si vous faites des produits French Touch, voilà, c'est assez ouvert. Assez ouvert, il faut juste qu'il y ait un peu cette touche française, parce que je sais que nos 12 000 membres à Apéro Chic, c'est ce qu'ils apprécient, c'est la French Touch, ils veulent savoir un peu ce qui se fait de français sur place. C'est aussi un moyen de répertorier, ça faisait longtemps effectivement qu'on y pensait au niveau d'Apéro Chic, de dire qu'il faudrait qu'un jour on répertorie tous les petits commerçants, etc. Et voilà, ça accélère les choses.
Oui.
Ça accélère les choses.
Alors, c'est très difficile, je sais, pour ces petits bistrots, pâtisseries, boulangeries. C'est sans doute une bonne façon d'avoir cette ressource. Comment faire, justement, pour vous rejoindre?
Alors, je peux vous envoyer, donc, on a un Google Form qui est en place avec des questions, un questionnaire, en fait, que les commerçants remplissent. Donc, c'est vraiment basé sur le volontariat. Et là, on est en train de travailler à mettre la liste en ligne. Donc, d'ici la fin de la semaine, la première liste, en tout cas, sera mise en ligne.
D'ailleurs, les gens seront invités, madame, monsieur. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aller sur notre site popourishow.com. Vous allez avoir tous les liens, tous les renseignements et les mises à jour de Apéro Chic. Et pour terminer, peut-être un petit mot pour rappeler aux gens qu'il faut faire attention. Alors, je sais que mes amis en Bretagne, à Paris ou à Toronto, à Ottawa, à Montréal, organise de temps en temps des apéros en ligne. Est-ce que ça vous est venu en tête, non?
Oui, alors je suis tellement axée sur les rencontres humaines que au niveau d'Apéro Chic, c'est un peu des nouvelles rencontres que les gens font.
Voilà.
Donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir beaucoup de personnes, d'avoir le même format, finalement. Mais je réfléchis à autre chose. Je réfléchis à autre chose pendant ce confinement. Il y a beaucoup de choses qui se font, hein.
Ouais.
Et donc je regarde un petit peu ce qui se passe, c'est de la veille, et voir si il y a quelque chose qui n'est pas encore fait et qui serait intéressant de faire.
Encore une fois, je rappelle aux gens que vous pouvez aller sur notre site pour avoir tous les renseignements de Apéro Chic. Et il y a même, je sais, votre logo qui est apposé sur notre site en fin de semaine. Et encore une fois, vous allez sur le site popourishow.com et là, vous allez avoir tous les liens, tous les mises à jour d'Apéro Chic. Je vous remercie infiniment, Peggy Harvey. Je sais que vous êtes très occupée. Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt.
Vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Plus de 20 000 morts. C'est le bilan de l'épidémie de Covid-19 en France entre début mars et fin avril. Face à elle, des milliers de soignants, infirmières, médecins, réanimateurs, anesthésistes, applaudissent tous les soirs pour leur courage. Et du courage, il en a fallu. Car le coronavirus et l'épidémie de Covid-19 ont révélé des failles importantes du système de soins français. Certaines étaient connues de longue date, d'autres se sont révélées plus profondes que jamais.
Si on arrive à le stabiliser, éventuellement, on pourra mettre une soigne.
D'abord, dressons le tableau. En 20 ans, la densité de lits d'hôpitaux a baissé.
Comme on le voit sur ce graphique, en 2017, on en avait 6 pour 1000 habitants et 8 pour le même nombre d'habitants en l'an 2000. Aujourd'hui, en Allemagne, il y en a 8 pour 1000 habitants. En tout, entre 2003 et 2016, 64 000 lits ont été supprimés. La France en dispose aujourd'hui d'environ 400 000. Parallèlement à la baisse du nombre de lits, entre 2010 et 2017, la production de soins, elle, s'est accrue. De plus, le taux de sortie de l'hôpital, c'est-à-dire le nombre de personnes hospitalisées au moins une nuit, n'a pratiquement pas baissé depuis l'an 2000. L'hôpital public français reste l'un des plus sollicités de l'OCDE. Ce taux de sortie est élevé parce que les décès sont majoritairement pris en charge par l'hôpital. Mais il est sous-estimé parce qu'il ne tient pas compte des naissances à l'hôpital.
Donc, moins de lits, plus d'activité hospitalière, le résultat de l'équation paraît simple. C'est le risque de manquer de personnel.
On ne peut pas dire que le nombre de personnels soignants a diminué. Il a continué à augmenter. Mais il a augmenté entre 2010 et 2017 de 2% par an.
Entre 2010 et 2017, les hôpitaux publics ont recruté 21 000 personnes, passant de 1 019 000 à 1 040 000 employés.
Sauf que l'activité hospitalière, elle, avec la tarification à l'activité, a augmenté de 14%. D'où la crise hospitalière qui s'est cristallisée et enquistée à partir de 2018-2019.
Cette crise, les infirmiers et infirmières l'ont vécue de plein fouet. Avec des salaires trop bas, en regard de la pénibilité, le métier d'infirmier a perdu de son attractivité. Ce graphique montre qu'en France, le salaire moyen d'un infirmier est vraiment bas. La France est en 28e position sur 32 pays étudiés. Le nombre de soignants augmente, tout comme le budget dédié à l'hôpital, mais pas suffisamment par rapport à la croissance de la demande de soins. Mais alors, pour éviter cette situation et l'engorgement dans les hôpitaux à cause du Covid-19, aurait-il fallu prévoir plus ? Plus de soignants ? Plus de respirateurs ?
Autrement dit, aurait-il suffi de dépenser des centaines de millions d'euros pour se protéger d'un risque théorique, une pandémie telle que celle que nous vivons ?
Entretenir un système pour des probabilités de grandes crises sanitaires, c'est extrêmement coûteux et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficient et de plus performant.
D'autant que le propre d'un virus, c'est son imprévisibilité. Le Covid-19 touche par exemple les voies respiratoires et d'abord les personnes âgées. Mais un autre virus peut causer des symptômes complètement différents et menacer d'abord les enfants. On aurait alors besoin de compétences complètement différentes.
L'objectif d'un système sanitaire, ce n'est pas de se dimensionner par rapport à une crise potentiellement à venir. Voyez ? En revanche, l'objectif d'un système de santé, c'est être capable de se transformer très rapidement pour faire face à cette crise.
Sauf que la crise actuelle survient justement au moment où l'hôpital est en pleine mutation. C'est le virage ambulatoire.
L'idée des décideurs politiques de droite comme de gauche, ça a été de réduire la place de l'hospitalisation dans l'offre de soins au profit de ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire la médecine de proximité, les médecins libéraux, les spécialistes libéraux, les pharmaciens, les infirmiers libéraux.
Il y a une quinzaine d'années, on entrait à l'hôpital et on en sortait guéri. Aujourd'hui, on se rend à l'hôpital pour recevoir un soin très technique. Puis, on en ressort alors qu'on n'a pas toujours retrouvé complètement sa santé. On est transféré vers une autre unité, en dehors de l'hôpital, pour finir de guérir. C'est le rôle des unités de soins de suite et de réadaptation, quand on fait de la rééducation, après une opération par exemple. Ou bien, on est hospitalisé à domicile, et là, c'est la médecine de ville qui s'occupe de nous.
Et cette politique dite du virage ambulatoire s'est accélérée considérablement à compter des années 2008-2010, en mettant sous contrainte budgétaire croissante l'hôpital public.
C'est à cette époque, en 2009, que la loi Bachelot, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, encourage les hôpitaux à développer des activités médicales rentables au détriment de celles moins rémunératrices. Les actes qui sont peu techniques et demandent beaucoup de temps d'accompagnement, comme en psychiatrie, par exemple, sont moins rentables que les actes chirurgicaux, très techniques et ponctuels.
La grosse partie de la réforme concerne l'hôpital public. Premier changement, le directeur qui n'est pas médecin sera le vrai patron. Il pourra venir du privé. Il y aura aussi un renforcement de la coopération avec les cliniques privées, comme ici à Lunel dans l'Hérault, où privé et public sont sous un même site.
Les opposants à cette loi dénoncent une logique d'hôpital-entreprise et d'usine à soins.
Au cours de la décennie suivante, ce virage ambulatoire, cette bascule vers un système de soins moins dépendant des hôpitaux publics, se révèle difficile à achever, et surtout moins performant que prévu.
Et vous savez comme moi que justement toute cette médecine de ville n'est pas suffisante pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des patients. Est-ce que cette mutation s'est bien opérée? Là, la réponse est clairement non. On a de trop fortes inégalités sur le territoire et des morceaux de territoire où on a un désert médical trop important en fait pour cette mutation.
Ces déserts médicaux et le manque de dispositifs en ville pour prendre le relais des hôpitaux, c'est aujourd'hui l'une des plus grandes faiblesses du système de soins français. Le virage ambulatoire a un peu réduit le temps passé par les patients dans les hôpitaux français, mais celui-ci reste le plus long d'Europe. C'est embêtant, car comme on l'a dit avant, le nombre des soignants dans ces hôpitaux n'augmente pas aussi vite que les besoins de soins.
Bref, les faiblesses du système hospitalier français que connaissent les soignants depuis plusieurs années, elles sont exacerbées au moment d'une crise inédite. Une crise inédite comme celle dans laquelle nous plonge le coronavirus.
J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme malgré cette situation exceptionnelle qu'on est tous et toutes en train de vivre actuellement. Beaucoup d'entre nous sont confinés, plusieurs personnes sont seules. Eh bien, je veux que vous sachiez que TV5 Monde est avec vous. On pense à vous, je pense à vous. Et parce qu'une information fiable est essentielle en temps de crise, eh bien, nous, on continue à vous informer le mieux possible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, on reste bien tranquillement chez nous, à la maison. On va se retrouver très vite. Allez, je vous embrasse.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale, sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
This virus still has the potential to erupt into a global pandemic.
De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la première manifestation de la maladie en Afrique subsaharienne. L'épidémie de coronavirus se répand. Près de 50 pays désormais sont touchés. Aucun continent n'est épargné. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Si l'on s'en tient strictement à cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 ressemble de plus en plus à une pandémie. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition. Une chose est sûre, la crise sanitaire désormais est mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Quelle réponse lui apporter? Les premières mesures annoncées localement ou à plus grande échelle sont-elles à la hauteur? On va tenter de répondre à toutes ces questions jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus.
Édition spéciale.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La charge ne vient plus seulement des États-Unis. La Chine est appelée à rendre des comptes par les puissances occidentales. Emmanuel Macron accuse Pékin de ne pas avoir manqué de transparence. L'Allemagne demande à en savoir plus sur la genèse du virus. Quant à l'Australie, elle réclame même une enquête indépendante, une requête balayée par les autorités chinoises. Alors, sous-estimation du nombre de victimes, dissimulation de la dangerosité du virus, à ces accusations s'en ajoute désormais une autre, là aussi portée en particulier par les Américains. Le virus aurait échappé aux travaux d'un laboratoire de haute sécurité situé à proximité de Wuhan. La Chine se défend, pour le coup accuse les États-Unis d'être à l'origine des premières contaminations et le climat se tend. Alors la Chine a-t-elle failli dans la gestion des premières semaines de l'épidémie? Que sait-on de ce laboratoire P4 de Wuhan? Est-ce que la Chine est fragilisée par ces multiples accusations? Virus, laboratoire, la Chine a-t-elle tout dit? C'est une question. C'était le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Valérie Niquet, vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je rappelle votre ouvrage, La puissance chinoise en 100 questions, publié aux éditions Talendier. Pascal Boniface, vous êtes géopolitologue, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je cite votre livre, 50 idées sur l'état du monde, publié aux éditions Armand Collin. Avec nous, ce soir en liaison, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers à New York et à Shanghai. Vous êtes par ailleurs consultant en gestion de crise. Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes membre de l'Académie de médecine. Vous avez précédemment publié « Gouverner l'imprévisible » aux éditions Lavoisier. Enfin, avec nous ce soir, Yves Godin. Vous êtes virologue, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Valérie Niquet, le bilan officiel des autorités chinoises sur l'épidémie de coronavirus est-il toujours de 4632 morts?
Oui, officiellement, pour le moment, c'est le chiffre après qu'on ait ajouté, ce qui s'est d'ailleurs passé dans d'autres pays, des personnes qui étaient décédées à domicile. La seule chose, c'est que évidemment, tous ces chiffres sont invérifiables. Et ce qui pose question à l'ensemble des spécialistes, c'est le très faible nombre de morts par rapport à la population chinoise et même par rapport à la seule population du Hubei, qui est quasiment équivalente à celle de la France, par exemple, et avec un système de santé dont on sait qu'il n'est, même si on a pu critiquer le nôtre, le système de santé chinois est très inférieur au système de santé occidentaux. Et malgré ça, la Chine n'aurait eu que 4000 morts, c'est très, très, très peu. Et on sait que dans les premières semaines, par exemple, il y a eu toute une série, on pense qu'on en était à plusieurs centaines quand la Chine ne parlait que de quelques dizaines de décès.
C'est un problème, ça, quand même, Anne-Claude Crémieux, cette sous-estimation du nombre de victimes. Qu'en disent les épidémiologistes? Est-ce que ça a biaisé, peut-être, la perception qu'on a eue de l'épidémie?
Je ne suis pas certaine, parce que... Si vous voulez, évidemment, le nombre de décès dépend du nombre de personnes qui sont touchées. Si effectivement ils ont réussi à contrôler l'épidémie, je crois qu'il y avait 80 000 personnes infectées. Eh bien, effectivement, mathématiquement, leur nombre de décès est inférieur à nous. Est-ce que ce nombre de décès qui a été réajusté de 3 000 à 4 000 et la réalité, ou autrement dit, on peut se poser la question différemment. Est-ce qu'ils n'ont eu que le nombre de contaminations qu'ils déclarent? Et ça, quand même, d'après l'enquête qui a eu lieu entre l'OMS et le CDC chinois, on a l'impression tout de même que le nombre de personnes infectées qu'ils ont déclarées et surtout le contrôle de l'épidémie sont une réalité.
Mmh. Alain Boer, sur ces chiffres-là.
Alors, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, il est effectivement celui de la transparence, parce que la question de l'épidémie en Chine est une question hautement politique et pas seulement une question hautement sanitaire. Il y a eu un élément publié en février par un institut épidémiologique de Shanghai. Donc, c'est un modèle mathématique. Ce modèle mathématique dit la chose suivante. Il y aurait dû y avoir 400 000 contaminés et 40 000 décès liés au Covid-19. Simplement, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que cette étude, elle est basée sur la réalité de l'épidémie en Chine. Mi-novembre, et pas du tout début janvier. Nous ne parlons pas des mêmes dates. Vous noterez, par exemple, tous les soirs, que le directeur général de la Santé commence l'épidémie en France au 1er mars. Or, il s'avère que nous savons désormais qu'il y a des cas français en décembre et en janvier. Donc, ça dépend à quelle période on calcule. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on compte? Tous les morts qui auraient aussi du Covid-19, mais qui sont morts d'autre chose, les morts du Covid-19, principalement celui-ci, or les symptômes ont beaucoup évolué. Donc on a un modèle mathématique chinois, issu des Chinois, qui dit 400 000, 40 000, qui donnera un taux de mortalité de 10% qui est relativement élevé, plus que ce qu'on imaginait avant. Et donc moi, ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes contaminées à cause des asymptomatiques, qui sont aujourd'hui entre 50 et 75% de la population, ceux dont on ne voit pas qu'ils ont été malades, dont on ne sait pas qu'ils ont été malades, et dont on ne saura que quand on aura passé tout le monde à un virus sérologique qui fonctionne. Mais probablement, y a-t-il eu, en fait, sur l'ensemble de la durée, et beaucoup de Chinois sont incinérés, il va être très compliqué de revenir en arrière, beaucoup, beaucoup plus de morts, parce que l'épidémie a commencé bien avant ce qu'on croyait savoir de l'épidémie.
Je dois avoir l'avis du virologue Yves Godin sur cette problématique-là. Et on voit bien que l'ensemble des pays occidentaux, c'était un peu dans l'air du temps il y a quelques semaines. Et là, c'est formellement assumé, notamment de la part du président Macron, d'Angela Merkel. On le verra dans un instant, des responsables de la diplomatie anglaise. Les Australiens demandent même une enquête. On voit bien que le sentiment de ne pas avoir eu tous les éléments sur le nombre de morts et même sur le virus lui-même commence à poser un problème aux Occidentaux. Qu'en dites-vous ?
On va rejoindre ce qui a été dit. La Chine, ça n'a jamais été un modèle de transparence. Non. Ok. Mais je dirais que sur cette épidémie, ils ont été plus transparents que pour la première épidémie de SARS, hein, puisqu'on a eu rapidement accès à la séquence du génome, par exemple. Maintenant, sur le nombre de décès, oui, il est probable que l'épidémie ait démarré plus tôt. Est-ce qu'elle avait été détectée? Est-ce que ça avait attiré l'attention même des autorités sanitaires locales? On rappelle qu'on est sur un taux de létalité qui est quand même assez faible, qui est bien sûr élevé, mais qui est de 1%, et le décès est de l'ordre de 4 semaines après la contamination. Vous voyez, les premiers cas en novembre, l'inquiétude peut n'apparaître qu'en décembre.
Ouais. Pascal Boniface, sur cet aspect-là, alors il y a eu quelques publications sur la façon dont les autorités chinoises ont géré tout cela. Par exemple, on a appris que le gouvernement a attendu 6 jours entre le moment où il a été informé sur la dangerosité du virus, le 14 janvier, et puis le moment où il a informé le public d'une situation grave, le 20 janvier. Ça, pour le coup, là, on voit qu'il y a une forme de dissimulation, clairement, des autorités chinoises.
Il y a un problème différent, c'est est-ce que l'on sous-estime le nombre de morts pour dire que tout va bien en Chine, et c'est un problème, finalement, de communication politique. Par contre, si le retard à l'allumage dans le fait de prévenir les instances, notamment l'OMS et notamment le public international, qu'il y avait une crise très grave et que, avec une transmission humaine, si cette absence d'information a permis la rapidité plus forte et l'intensité plus forte de la contagion, là, effectivement, les Chinois auront des comptes à rendre. Mmh. Alors, est-ce qu'ils ont dissimulé cela volontairement ou est-ce qu'ils ont été dépassés par l'effet de surprise? Est-ce qu'ils ont voulu vraiment mettre la poussière sous le tapis pour ne pas mettre en cause le régime. Et c'est vrai que, disons que l'absence de transparence du régime chinois prête un petit peu quand même à dire qu'il faut faire attention. Et ce qui est documenté, c'est qu'au départ, il y a eu que les lanceurs d'alerte ont été sanctionnés, ont même été menacés pour
dire,
attention, vous allez semer la panique dans le public. Et les lanceurs d'alerte, dans un premier temps, ont été assimilés à des gens qui voulaient mettre en cause le régime social, le système social. Donc effectivement, les lanceurs d'alerte n'ont pas pu avoir le rôle qu'ils ont dans d'autres circonstances.
Valérie Niquet.
La question en Chine, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire confiance aux statistiques parce que les statistiques sont politiques. C'est une arme politique et le pouvoir les contrôle. C'est souvent des secrets d'État et on n'a pas le droit de les diffuser. Donc on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. On est tout prêt à croire les chiffres donnés par la Chine, mais ce qui serait bien, on n'a pas confiance dans les statistiques chinoises. Ça, c'est un problème essentiel.
Pas uniquement sur les questions sanitaires, c'est ce que vous voulez dire.
Non, sur toutes les questions. Le Premier ministre chinois était le premier à dire il y a quelques années, encore une fois, qu'il ne croyait pas lui-même aux statistiques chinoises et que pour la production, il regardait les transports et la consommation d'électricité. Le deuxième point très important, c'est que, comme le disait Pascal Boniface, la dissimulation, ce n'est pas forcément de ne pas se rendre compte tout de suite de la gravité d'une épidémie. On veut bien penser que les gens à Wuhan se disent bon, on ne va pas trop en parler, ça va se régler tout seul, rapidement. Non, c'est que jusqu'au 20 janvier, les communications apparemment auprès de certains experts, et notamment de l'OMS, sous-estimaient grandement par exemple la consommation, la contamination d'être humain à être humain. Ce qui fait que l'OMS n'a pas non plus déclaré tout de suite un état de pandémie et a sous-estimé. La Chine a critiqué les États-Unis, par exemple, qui ont fermé les frontières en expliquant que ça ne servait à rien.
Et ça, on va revenir sur le différent entre les États-Unis et l'OMS. Avant d'aller au premier reportage, je voudrais citer Mao Tse-tung, qui est cité par Nicolas Mavresse dans Le Point cette semaine. La vérité doit s'inspirer de la pratique. Il faut corriger la vérité après la pratique. Alors, la dernière à avoir réagi, c'est Angela Merkel. La chancelière, elle aussi, réclame de la transparence sur la genèse du virus. La première charge, sans surprise, est venue des États-Unis. Là-bas, les accusations contre la Chine sont livrées sans détour dans les médias. Vous allez l'entendre. Myriam Zéhar et Nicolas Baudry-Dasson.
La Chine est hors de contrôle. On ne vous laissera pas détruire ce pays et notre modèle de vie. On a travaillé trop dur, on s'est battu trop longtemps pour perdre face au virus de Wuhan. Oui, je le dis, la Chine est au tout courant et a ouvertement menti à ce sujet.
C'est une petite musique récurrente aux États-Unis. La Chine a menti. Un message martelé sur la très conservatrice chaîne de télé Fox News, mais aussi dans les couloirs de la Maison Blanche, où Donald Trump n'a cessé d'accuser Pékin de dissimuler la vérité.
Cela se serait beaucoup mieux passé si on avait tout su quelques mois plus tôt. Ils auraient dû nous informer. Leurs chiffres semblent un peu sous-estimés et je suis gentil quand je dis ça, étant donné ce que nous avons vu et ce qui nous a été rapporté.
Des accusations d'abord sur le nombre de morts en Chine, notamment après ces photos. Elle montre de longues files d'attente de personnes venues chercher les cendres de leurs proches et des piles d'urnes funéraires attendant d'être récupérées. Vendredi, les autorités de Wuhan admettent un bilan à la hausse. Il y aurait eu 1290 morts supplémentaires.
Il y a un total cumulé de 4632 décès et un total de 82 692 cas confirmés.
Mais pas de quoi convaincre Donald Trump.
La Chine vient d'annoncer le doublement du nombre des morts causés par l'ennemi invisible. Il est bien plus élevé que cela et bien plus élevé que celui des États-Unis.
D'autant que les doutes sont nombreux, sur les morts donc, mais aussi l'origine du virus. Le temps qu'ont mis les autorités chinoises à alerter sur sa contagiosité. En France, dans une interview au Financial Times, Emmanuel Macron s'interroge.
Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas.
Selon une revue scientifique de référence, le gouvernement chinois exercerait ces derniers mois un contrôle strict sur la recherche autour du virus, au grand regret des chercheurs étrangers. Des lanceurs d'alerte seraient portés disparus ou réduits au silence. Alors, comme Emmanuel Macron, Angela Merkel regrette que la Chine ne joue pas le jeu.
Plus la Chine rend compte de manière transparente de la genèse du virus, mieux ce sera pour tout le monde sur cette planète afin d'en tirer les leçons. Des critiques des pays occidentaux et à Pékin, un démenti très ferme.
Les doutes sur la transparence de la Chine dans la prévention et le contrôle de l'épidémie ne sont pas conformes aux faits et ne respectent pas non plus les grands efforts et sacrifices faits par le peuple chinois pour la prévention et le contrôle de la maladie.
Et la polémique a atteint l'OMS, accusée par les États-Unis d'avoir pris pour argent comptant les données chinoises autour du virus et d'avoir tardé à réagir.
Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source, avec très peu de morts.
Donald Trump a donc décidé de suspendre sa contribution à l'autorité sanitaire. Près de 500 millions de dollars, soit 22% du budget annuel de l'OMS.
Et nous allons venir précisément sur ce différend avec l'OMS. Mais d'abord, cette question. Va-t-il y avoir une enquête internationale indépendante sur l'origine du Covid-19? À votre avis, Pascal Bonifaz?
Enfin, qu'elle les demande, oui, mais ça m'aiderait beaucoup que la Chine l'accepte. Parce que ce n'est pas le genre de pays qui va accepter une inspection internationale. Ça veut dire qu'elle n'est pas crédible et que donc il faut une inspection internationale. Ça serait reconnaître que sa propre parole n'est pas crédible aux yeux du monde entier. Donc c'est absolument impossible à l'aide pour les Chinois. Et par ailleurs, leur idée centrale de pas d'ingérence, pas d'interférence étrangère, vraiment combat cela, mais dès l'origine du régime. Et ça n'a pas changé avec Xi Jinping. La Chine, en tant que pays communiste et en tant que maintenant pays même moderne communiste, refuse toute intrusion internationale au nom d'une conception illimitée de la souveraineté.
Sauf que là, on est quand même dans une situation un peu inédite, Pascal Boniface.
Oui, mais ça serait vraiment... Alors, s'il l'acceptait, c'est que vraiment, ça serait un retournement complet de doctrine et de pratique par rapport à tout ce qu'est le dogme chinois, qui était le dogme soviétique également auparavant. Mmh. Donc, une inspection internationale, c'est remettre en cause le monopole du parti et se remettre en cause la souveraineté, c'est proprement inacceptable. Ça serait une révolution.
Ce serait une révolution, dites-vous. On voit bien que ces derniers jours, la pression internationale s'est faite de plus en plus forte. On a entendu Angela Merkel, on aurait pu parler de Dominic Raab aussi, qui est le patron de la diplomatie britannique, qui a haussé le ton, ce qui était un peu plus inattendu de la part des Britanniques. On parlait de Emmanuel Macron, Mike Pompeo, naturellement, et les États-Unis sont très allants sur la critique de la Chine, ça ne nous surprend pas. Est-ce que ça peut peser, à un moment donné, sur des partenaires des pays moins enclins à la critique que les États-Unis, qui changent de ton?
Ce qui est certain, c'est que contrairement à ce qu'on a beaucoup oublié, où la Chine allait sortir victorieuse de cette lutte, et puis la première puissance dans le monde, on voit bien que c'est pas du tout le scénario qui se dessine, à moins d'un retournement surprenant, c'est qu'au contraire, il y a une coalition assez surprenante, y compris avec les États-Unis, en dépit du côté un peu erratique de Donald Trump, mais enfin, derrière lui, tout le monde suit dans cette condamnation de la manière dont la Chine gère non seulement l'épidémie, mais aussi la propagande absolument délirante à laquelle on a assisté en France, notamment. Mais en revanche, c'est vrai qu'au niveau de l'ONU, je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. La Chine a un droit de veto, donc elle peut bloquer toute commission d'enquête éventuellement. L'OMS peut éventuellement... La Chine peut essayer de donner une meilleure image d'elle-même. Et puis le dernier point aussi, c'est qu'il commence à y avoir des plaintes d'entreprises privées contre la Chine et qui reprennent les règles auxquelles la Chine aurait dû obéir étant membre de l'OMS sur la manière dont on dévoile les épidémies et dont on les gère. Et ça n'aura peut-être pas de conséquences, mais tout ça crée un ensemble qui est extrêmement nuisible pour l'image de la Chine.
Claude Crémieux, je me souviens qu'au début, on entendait des scientifiques français expliquer qu'il y avait une fluidité dans les rapports entre les scientifiques chinois et les scientifiques européens. C'était le cas
absolument
ou pas?
Ça continue à être la réalité, ça l'est. Et je pense que, en ce qui concerne les données de la description de la maladie et même sa gravité, nous avions les éléments. Les publications du Center for Disease Control chinois nous donnaient le taux de formes graves qu'ils avaient évalué à 15%. et de décès et de formes critiques à 4%. Donc, en gros, 20% de personnes en réanimation, c'est ce qui a été le cas en France. Donc, les données que nous avons reçues sont des données qui sont exactes. Dernière chose, si on se pose toutes ces questions aujourd'hui sur l'origine du virus, c'est qu'effectivement, à la différence du SRAS, on n'a pas retrouvé cette origine. Vous rappelez que finalement, pour le SRAS, on l'a retrouvé assez rapidement.
Je me permets de vous couper, Anne-Claude Crémieux, parce qu'on va en parler précisément de l'origine du virus, et en particulier sur le cas de ce laboratoire de Wuhan. Mais là, je voudrais qu'on reste, en vous interrogeant précisément sur ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la Chine, puisqu'encore une fois, on vient le voir à l'instant, tous les grands leaders occidentaux se disent on ne sait pas tout. Est-ce que ce serait scandaleux que l'OMS demande à enquêter, par exemple, sur le nombre de morts en Chine? Est-ce qu'il y a eu des enquêteurs de l'OMS? On a bien compris que ce serait compliqué, mais est-ce que ça peut se faire dans le cas d'une lutte contre une épidémie?
Ça sera difficile. En ce qui concerne le nombre de morts, c'est une bonne question. Est-ce que vous voyez la difficulté avec laquelle les pays comptabilisent leur nombre de décès? Regardez en France, la difficulté que nous avons à essayer de comptabiliser en temps réel le nombre de décès. Voilà, à distance, j'imagine que c'est encore plus difficile.
Une enquête de l'OMS, Alain Bauer, ou une enquête internationale tout court, comme l'a demandé l'Australie?
Alors, il y a une seule chance d'avoir exactement l'inverse de ce qui est recherché, c'est d'imposer ou de tenter d'imposer aux Chinois quoi que ce soit. Vous êtes sûr de ne pas y arriver. Par ailleurs, il y a déjà eu une mission de l'OMS en Chine. Tout le monde a oublié, mais elle y est allée. Elle s'est présentée en Chine, elle a fait son travail. Et le paradoxe de cette affaire, c'est qu'au fur et à mesure, sur les questions scientifiques, je parle bien des questions scientifiques, comme l'a rappelé très justement Anne-Claude Crémieux, on découvre que ce que les Chinois nous disent, c'est exactement ce que nous constatons 3 mois plus tard. Donc, on ne peut pas leur faire ce procès-là de cette manière-là. Penser que les Chinois pourraient eux-mêmes dire « Tiens, il serait bien d'avoir une nouvelle mission de l'OMS pour faire le bilan de la situation », surtout maintenant que le président Trump a mis à l'index l'OMS, serait un pied de nez que les Chinois pourraient décider parce qu'ils auraient la main sur cette option. Et ils ont probablement intérêt à le faire au moment qu'ils vont choisir, hors de toute pression occidentale, pour dire « Écoutez, il n'y a pas de problème, on va faire un bilan de ce qui s'est produit ». Et par exemple, fin avril ou début mai, à une occasion quelconque, on va inviter l'OMS et des experts de l'OMS, donc entre guillemets neutres, onusiens, casque bleu, à venir faire une petite visite. Mais sur le terrain scientifique, à ce moment précis, et malgré les restrictions nouvelles et récentes de la Chine, car plus elle est forcée, plus elle se cabre, les données qui sont données ont toutes, je dis bien toutes, été vérifiées.
Alors, vous parlez de l'OMS, ça donnait lieu à une passe d'armes entre Donald Trump et l'Organisation mondiale de la santé, qui lui considère qu'elle n'est pas neutre. Et Pascal Boniface, qu'elle était sous influence chinoise. Vous avez très justement, Alain Bauer, rappelé la visite du monsieur Tedros en Chine, à Pékin, et il était revenu en expliquant que tout était bien géré, et il a mis des semaines et des semaines à accepter de parler de pandémie. Le retard à la image de l'OMS, il n'y a pas que Donald Trump le considère.
Non, il a été constaté. Alors bien sûr, ce président, ce directeur de l'OMS est proche des Chinois. Il était éthiopien, il a été mis à affaires étrangères et la Chine a des intérêts très forts en Éthiopie. Mais il y a aussi un autre fait, c'est que quand l'OMS travaille sur un pays, il faut l'accord du pays. L'OMS ne peut pas dire « je vais chez vous et on arrive à telle heure ». Et donc, nécessairement, il y a besoin de l'accord du pays dans lequel on va enquêter. Et c'est toujours, on a ce problème en Syrie, par exemple. Si l'OMS veut intervenir en Syrie, c'est extrêmement important, eh bien, il faut traiter avec Bachar el-Assad. C'est très désagréable, mais il n'y a pas d'autre raison. Donc, l'OMS est un peu obligée de traiter avec le pays. Et puis, on sait très bien que dans toutes les organisations internationales, les grands pays, notamment s'ils sont membres permanents du Conseil de sécurité, pèse d'un poids beaucoup plus lourd que les autres. C'est le même cas pour la Russie, pour les États-Unis, où il est très difficile d'enquêter contre cela. Mais en même temps, s'il y a quand même quelques reproches à faire à l'OMS, la charge de Donald Trump de dire on arrête le financement en pleine crise décrédibiliser les attaques contre l'OMS, parce qu'elles sont tellement excessives. S'il y a des choses à reprocher à l'OMS, on le fera après, une fois que la crise sera passée et qu'on pourra faire effectivement l'enquête. Mais beaucoup de gens pensent quand même que globalement, l'OMS a joué son rôle. Il y a bien sûr ce retard un petit peu, mais il a joué son rôle globalement.
Que dit le virologue Yves Godin sur les retards à l'allumage éventuellement de l'OMS, et est-ce que ça aurait changé quelque chose ?
Non, moi, j'ai pas l'impression que ça aurait changé quoi que ce soit. Je pense qu'on l'a assez dit. On était relativement bien au courant de ce qui se passait. Et je dirais, dès la fin janvier, bon, peut-être qu'on aurait pu gagner une semaine ou deux semaines. Voilà. Non, ce qui m'intéresse plus en tant que virologue, c'est l'origine du virus.
On va en parler.
Ouais. Et voilà, ça je peux vous donner quelques éléments.
Et dans un instant, on va en parler et on va revenir naturellement sur tous les soupçons autour de ce laboratoire. Comment la Chine se défend ? Parce que il y a un peu d'agressivité dans la réaction chinoise par rapport à ces accusations. On a vu notamment que le ton était sérieusement monté entre la France et la Chine, qui a apporté elle aussi des accusations contre Paris.
Que le ton monte en Chine, c'est le moins qu'on puisse dire quand on lit les communiqués de l'ambassade de Chine en France, qui sont particulièrement insultants, à la fois pour les soignants des EHPAD et puis également pour les députés qui ne partagent pas les positions de Pékin. On a rarement vu ça depuis la révolution culturelle.
On rappelle que l'ambassadeur a été convoqué.
L'ambassadeur a été convoqué, ce qui est aussi quand même quelque chose d'assez original dans les relations franco-chinoises. Donc il y a un vrai problème dans le positionnement de la Chine. Je pense que la Chine est sur la défensive et que notamment le régime est extrêmement inquiet de deux choses, la reprise économique et surtout la peur de voir ce dont on parle beaucoup, qui est une réorganisation du système mondial qui se détournerait de l'usine du monde. La Chine a encore besoin, 18% du PNB de la Chine vient de ses exportations vers les pays développés. La Chine en a absolument besoin et elle a vraiment très peur. Et donc la réaction, c'est effectivement une réaction d'agressivité, d'accusation. Je voudrais juste un point pour revenir sur la question de l'OMS tout de même, c'est que bien sûr c'est difficile de travailler contre la volonté d'un pays, mais les déclarations, quand on lit les discours officiels, y compris au retour de la visite d'inspection d'une mission de l'OMS, sont particulièrement laudateurs en reprenant les mêmes termes que ceux de la propagande chinoise. Il y a des manières différentes de dire les choses et on sait que Pékin était très inquiet d'avoir à la tête de l'OMS quelqu'un qui aurait été beaucoup plus sévère, comme ça avait été le cas au lendemain de l'épidémie de SARS en 2004.
Et il y a aussi nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
CIUT 89.5, Toronto.
Lavez-vous les mains, gardez la distance sociale d'au moins un mètre avec votre interlocuteur. Des messages de musiciens africains pour sensibiliser le public contre le COVID-19. En Ouganda, le célèbre chanteur et politicien Robert Kyagulanyi, alias Bobby Wine, associé ici à son collègue Nubian Lai. Sur un air mêlé aux mélodies de rumba emblématiques de l'Afrique de l'Est, ils encouragent les gens à se faire dépister. Avant Bobby Wine, la star de la musique congolaise, Fally Ipupa, invitait déjà le public à éviter d'échanger, de baiser.
Fally en mode confinement. Bisous, stop, stop. Les accolades, stop, stop.
Fally invite également le public à rester confiné à domicile malgré la difficulté d'appliquer cette décision en Afrique.
Oui, oui, oui. Je sais que pour les gens qui sont en Afrique, c'est très, très compliqué. Je le sais. Mais, mes chers frères et sœurs, notamment pour ceux qui sont au Congo, RDC, mon pays, respectons les consignes données par les autorités et l'OMS. Restez à la maison, protégez-vous et protégez aussi les autres, s'il vous plaît. C'est un petit message de votre frère, ami et artiste Fally Ipupa. On est ensemble.
Oui, pas toujours facile de vivre le confinement en famille. Heureusement que notre famille, la familia, est très éloignée. Alors donc, on se communique à travers le Zoom. Le Zoom. Radio d'entraide et de solidarité, CUTFM et Popurucho vous accompagnent pendant cette période de confinement avec un site et une antenne 100% solidaire. Vous êtes nombreux à réagir à nos émissions, à nous proposer des thématiques et à répondre à nos questions et à nos jeux concours. Merci infiniment. J'ai le grand bonheur d'offrir d'ailleurs une magnifique boîte bien garnie de pâtisseries traditionnelles de la pâtisserie torontoise très réputée Marvelous by Fred, au merveilleux de Fred, situé à 224 rue Queen West à Jasmine Brideau et la l'heureuse gagnante. Elle habite la ville d'Oshawa, dans l'est de Toronto. Malgré le confinement, Marvelous by Fred répond à vos appels et vos commandes avec livraison gratuite pour un achat de plus de $24. Eh oui, toutes les infos pratiques sont sur notre site popourichaud.com. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos invités qui ont participé à cette édition spéciale, tous confinés. Merci aux techniciens, DJ Devera, qui travaille à distance, nos collègues de TV5, TV5 Monde, RFI, France Inter, France 24 et particulièrement Linda Giguère. Merci à Madame Francine Watkins, conseillère consulaire pour l'Ontario et le Manitoba, Peggy Harvey, fondatrice d'Apéro Chic. Ayons une pensée, hein, s'il vous plaît, pour les personnes qui souffrent, qui sont isolées. Pensons aussi à ces travailleurs, travailleuses qui sont au front, qui prennent des risques pour nous fournir des services essentiels. En ces temps sombres, l'avenir incertain nourrit de beaucoup de pensées négatives et d'appréhension. Eh oui, toute cette négativité conduit à l'anxiété, au stress et à la dépression. Pourtant, pour aller de l'avant et voir l'avenir de manière plus positive, il faut faire preuve de beaucoup d'ironie et essayer de se prendre moins au sérieux. Afin de vous remonter le moral et en guise de remerciement et d'appréciation aux nombreux auditeurs qui ont réagi à nos émissions au cours de la semaine écoulée, je vous propose dans cette dernière tranche les artistes, les comédiens, les humoristes qui ont beaucoup de succès sur la toile en ce moment. Le groupe camerounais Koro Abou et leur clip sur le coronavirus qui connaît un vrai succès en Afrique et dans le monde francophone. Celle qui est née de parents italiens a eu une enfance heureuse, mais a souffert de crises d'angoisse quand elle était petite. Elle est une des comédiennes et humoristes françaises très connues dans le monde francophone, Florence Foresti. Privée de tournée à cause de la crise sanitaire, il cartonne sur Internet en publiant des reprises parodiques de Jacques Brel ou encore Francis Cabrel. Les paroles habilement détournées font référence au coronavirus ou au confinement. Le groupe Les Goguettes, en trio mais à quatre. Détendez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, restez chez vous, sauvons des vies.
Bonsoir à tous. La fin de journée. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre.
Fastoche.
Je m'appelle Brigitte.
Mais c'est de la folie.
Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est pas exprès, bien sûr.
Moi, je dis stop.
Vous avez demandé à venir nous voir sur ce plateau, Madame la Ministre. Vous savez, ici, vous avez table ouverte. Vous pouvez, quand vous voulez, venir expliquer les décisions du gouvernement.
Absolument.
Et j'imagine qu'effectivement, ce débat vous a intéressé.
Voilà, absolument. D'abord, permettez-moi de vous remercier, en effet, de m'avoir invité à votre excellente émission de divertissement satirique d'Access Prime Time. Hein, merci, merci. De me laisser m'exprimer sur le houleux, l'épineux, le douloureux problème du CPE.
Ah non, on était en train de parler des différentes épidémies,
épidémies.
Par le gouvernement, on parle de santé.
Santé, à la vôtre, chikungunya. Oh bravo, alors vraiment, oui, alors
le CPE, ce sera...
Non,
on en parlera demain, hein, oui. Mais là aujourd'hui on parlait des problèmes de santé.
Santé. Alors, sur le domaine de la santé, je peux vous dire que j'en connais un rayon. J'étais moi-même ministre à la santé pendant 2 ans ferme, dont 24 mois en sursis. Pour vous dire que c'est pas si terrible. Pour revenir au problème de santé, alors des tas de nouveautés sur la table. Oui, je suis en train de mettre en place un nouveau projet qui vise à créer une sorte d'assurance maladie pour tous les Français, que nous appellerons sécurité sociale.
Attendez, ça existe depuis longtemps.
Voilà, ça existe. Ah bah oui. Là, voyez que nous sommes allés plus vite que prévu. Bravo. Voyez que la 4e République tient ses promesses. La 4e République va de l'avant. Oui. Et je m'en félicite. Félicitations, Madame Pipeau.
5e, c'est la
5e, 4, 5, 6, allez hop.
Mais peu importe, venons-en au problème de propagation des virus actuels.
Absolument. Alors, qui est un problème grave. Je vous en prie. Non, attendez. Attendez. Alors, pour lutter contre la propagation des virus modernes, des virus d'aujourd'hui, je conseillerais à chaque Français de ne plus ouvrir les emails dont la pièce jointe s'intitule Côte-Côte ou Bzzz. Voilà. Déjà, ça, c'est une chose. Ça écarte un petit peu les problèmes.
Sérieusement, madame la ministre.
Oh, attendez.
Le chikungunya. Qu'est-ce que vous en pensez
concrètement? Alors, merci, monsieur Jiquel, de me lancer sur ce. Attendez. Sur ce sujet. Alors, en ce qui concerne le chikungunya, c'est masculin, qui rapporte un maximum au Scrabble. Chikungunya. Attention. Si vous placez le cas. Le Y. Attendez. Si vous placez correctement le K et le Y, et avec les 50 points de bonus, vous remportez la victoire au la main. Ce qui n'était pas le cas avec des mots comme peste ou choléra. Donc on avance, il y a toujours du positif. Écoutez, dans les...
On ne peut pas s'amuser avec ça, je vous rappelle quand même que le virus progresse et qu'il faut trouver des solutions très rapidement. Et je rappelle que vous n'avez pas les questions à l'avance.
Quelle était votre question, du coup, d'ailleurs? Hop là, je suis partie, j'étais ailleurs.
Le virus progresse très rapidement.
Oui, alors, non, point d'affolement non plus. Je vous rappelle quand même que le virus n'a pas encore gagné le territoire français. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Hein?
Attention. Vous allez, justifier et donner raison à monsieur Le Guen, je vous rappelle que la Réunion, c'est un territoire français, madame la ministre.
Ah, d'accord. Ah, très bien. Alors tout s'explique. Ah, d'accord. Alors je me demandais pourquoi tout cet affolement pour des Noirs. Mais ça y est. Ah oui, d'accord, c'est français. Ah oui. Alors là, ça change tout. Attendez. Mais non, là, je comprends. Là, je comprends. Là, c'est grave. Là, vous m'auriez dit que la réunion était en Afrique, j'aurais compris. Là, d'accord. Non, là, attendez. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Maintenant, en ce qui concerne la grippe aviaire, parce que je crois que le problème de la chikungunya est close. En ce qui concerne la grippe aviaire, nous sommes en train de contrôler les flux migratoires, ce qui est un gros progrès, puisque j'ai entendu dire que nous avions mis en place des passeports biométriques. Que les oiseaux porteront hein, sur eux et qui permettront de les identifier et de les abattre à chaque frontière française. Voilà, là on avance aussi. Hein,
quoi, voyez. Il y a un dernier conseil, parce que je vois bien conseil. Que vous avez manifestement un autre rendez-vous.
Oui.
Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner pour rassurer les Français?
Alors, oui, absolument. Vous savez, les Français ne sont pas des pigeons. Hein, quoique. Dernière recommandation aux Français est de fuir le territoire dès les prochaines heures. Sans céder à la panique, tout ça dans le calme. Hein, en file indienne, à la queue leu-leu, tout le monde s'éclate. Voilà, m'emportant quand même quelques vivres et quelques produits de première nécessité. Voilà, mais je crois que là, il n'y a pas lieu de céder à la panique. Bon, quant aux politiques, ils sont censés donner l'exemple, donc je quitte le pays pour une durée indéterminée. Voilà, calmez-vous, on s'occupe de rien. Merci, merci à vous. Au revoir, monsieur Blanche.
T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romère, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh ben, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, faut se déconfiner. CQFD. T'as voulu mettre un masque, et ben y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une motte de beurre, la coûtait tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit, chauffe personne. Il faut rester chez vous, quitte à devenir fou. On doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Edouard Philippe. Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée. Je te laisse 10 minutes max pour finir l'Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par million. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est pas mignon. Et en plus, c'est bon, trop. Alors à ce qu'il paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charenton, vivant que ce soit fini, qu'on se confine en prison pour de bon. Oh mais Macron a dit, hey, hey, l'ancien monde c'est fini, débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'humain. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tiens mon chapeau. Si avec tout ça ils tiennent pas un peu schizophrènes, pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne.
quand il est désœuvré. Du patron des patrons en plein congé forcé, comme une vieille antienne, mille fois rabâchée, qu'on doit être utile à vivre et à trimer. Parce qu'il y a contagion dans n'importe quel quartier, il est soudain utile de devoir s'arrêter. Comme une langue ancienne qu'on avait oubliée, qu'on peut être utile à lire et à chanter. La, la, la. On peut mieux distinguer ceux qui nous sont utiles, sur qui on peut compter, ceux qui nous aideront et ceux qui nous aideraient, ceux qui sont utiles à nourrir, à soigner. Quand les États seront encore plus endettés, d'avoir été utile, comment donc justifier auprès des infirmières, paysans, ouvriers. Que plus on est utile, plus on est mal payé. La, la, la. D'un monde un peu perdu, on nous voudrait en guerre sans nous avoir prévenus de ce qu'on doit sauver.
Nous, comme des couillons, on s'était bien moqué. Ces Chinois par millions qui avaient plus le droit de bouger, on n'a rien vu venir.
Le virus peut se pointer, on s'en fiche royalement. Nous on sait résister, demander aux Allemands, y a pas de quoi frémir,
ni ne plus sortir,
on va pas mourir.
Et puis c'est pas une petite grippette qui va nous bloquer le pays.
En France on n'est pas des mauviettes et on vit en démocratie.
C'est insensé, mais notre seule distraction, c'est en début de soirée, applaudir au balcon.
On n'a rien vu venir.
Puis franchement, qui l'eût cru qu'à cause d'un pangolin, y aurait plus de lustre cru au Leclerc de Melun. Ça fait réfléchir.
Qu'est-ce qu'on va devenir sans nous y faire cuire?
On était rigoureux, y a pas d'argent magique. Désormais, ils n'ont plus sur l'hôpital public.
On n'a rien vu venir.
Dire qu'on avait voté pour que maintenant en France, on soit débarrassé de l'État-providence. C'est quoi ce délire? Est-ce un repentir? Un autre avenir?
On a perdu tous nos repères à cause de cette épidémie. Macron défend les fonctionnaires. Et à Bercy, c'est une vraie gabegie.
Qui pensait nom de nom que le médecin le plus écouté aurait des cheveux longs et l'accent marseillais? On n'a rien vu venir.
Qui s'était pas écrit dans les cartes du tarot que notre idole aujourd'hui serait Madame Bachelot? On adore Roselyne, t'es notre héroïne, notre chloroquine.
Nous on était bien, mais maintenant c'est fini. On est loin d'être serein face à cette pandémie qu'on n'a pas vu venir.
Et pourtant il y avait un signe prémonitoire. Le PSG s'était qualifié pour les quarts. À y réfléchir, ça voulait peut-être dire
le pire est permis.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Potpourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Potpourri Show en nous envoyant un message à potpourri@cut.fm ou visitez notre site potpourrishow.com. Potpourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
On a vu, c'est la fête des intentions.
Radiquons la distancia. Ayende, balance-moi le son. Coro à vous, production.
Mon ami, tu as mouru quoi? On dit M.
50 quoi. ES et Miu, ça va tuer. Le miel est un fou mort. Comme chien son beau. A du love. Au colonel, à Boubacar, c'est tout court.
C'est la fête des intentions.
Radiquons la distancia.
Ayende, balance-moi le son. Coro à vous, production. Yeah.